Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission qui est Time Sport, 20h, 21h, le créneau horaire de votre quotidienne sportive. La dernière de cette fameuse année 2021. Et oui, c'est la dernière ce soir et on va vous faire plaisir, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. Vous pouvez réagir, on le rappelle, sur les réseaux sociaux concernant le programme de ce soir. Eh ben, ce programme, c'est un programme assez surprise. Eh oui, avec l'équipe qui m'accompagne ce soir, eh ben, on aura Sarah pour m'accompagner, sans oublier Louis-Marie, et aussi Abdel. Justement, on va essayer de s'attarder avec ces personnes sur l'antenne de Beurre FM pour revenir sur cette année écoulée concernant la planète sport. Allez, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Alors justement, c'est vraiment l'équipe de Time Sport qui choisit ces sujets. Et oui, comme d'habitude, hein, mais là je veux dire, c'est plutôt avec le pool de la newsroom, c'est plutôt eux, les consultantes et les consultants. Bonsoir Sarah, comment ça va pour cette dernière de l'année 2021?
Ça va très bien, et toi Bilal?
Ça va très très bien, sur mon 31, prêt à sortir, mais bon, c'est pas où parce qu'on me l'interdit. Louis-Marie est de la partie aussi. Comment ça va Louis-Marie?
Ça va super, écoute, c'est la Dream Team ce soir, hein. Les meilleurs pour la dernière de l'année, il y en a qui vont jalouser.
Abdel est avec nous aussi Louis-Marie. Comment ça va? Ouais. Je croyais que tu nous faisais une Yacine. Je croyais que tu nous faisais une Yacine là.
J'attends de la parole. J'attends que tu me fasses mon lancement. Il y a pas de souci. Ça va très bien, Bilal. Très
Abdel, il est là, lui aussi.
Pour la dernière.
Sa nouvelle coupe très fraîche. Hein.
Faut pas dire ça, ça se voit pas.
Ah ben justement, on va le prendre en photo. Voilà, on fera partager sur les réseaux sociaux. On va s'attarder avec un sujet. Allez, Louis-Marie. Allez, on balance le premier sujet. On t'écoute, Louis-Marie, justement.
Bah, vous me connaissez. Alors, moi, j'ai envie de parler tennis.
Le tennis.
On en parle très peu. Et moi, c'est un petit peu ma marotte.
Le sportif français concernant le tennis.
Ah bon, on va mettre de côté les sportifs français en tennis.
Aïe, Louis-Marie, tu nous fais pas plaisir, là.
Ah bah, c'est eux qui nous ont pas fait plaisir cette année. Non, mais cette année, il y a quand même, je pense qu'il y aura un avant et un après US Open 2021 dans le tennis mondial. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé cette US Open qui a été incroyable. D'un côté, bah, on a la page qui s'est tournée, peut-être du Big Three. Peut-être. On verra ce qui se passe à l'Open d'Australie. Mais enfin, un membre du Big Three, bon, je parle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Djokovic, Nadal, Federer, qui a perdu en finale de Grand Chelem face à un mec de la nouvelle génération, à savoir Daniil Medvedev. Et il a perdu dans les grandes largeurs. Il n'y a pas eu match.
Ouais.
Et sur cette fin de saison, ça s'est confirmé. C'est-à-dire que non seulement Medvedev a gagné l'US Open, mais derrière Djokovic a perdu au Masters contre Zverev. Et ce nouveau Big Three qui remplace un petit peu l'ancien, c'est-à-dire que cette fois-ci Djokovic est accompagné de ses deux nouveaux comparses, le Russe et l'Allemand, eh ben vraiment il y a un renversement des forces. Et là, ça augure une année 2022 très intéressante. Et
donc
parce que justement cette année, on peut se dire que potentiellement on va avoir un nouveau numéro 1 mondial, ce qu'on n'a pas eu depuis 2004, un numéro 1 mondial qui n'est pas du Big Four si on rajoute Murray.
Ouais.
Donc là, cette année, c'est peut-être l'année du renouvellement qu'on attend depuis tant d'années. Donc moi, ça m'a fait kiffer parce qu'on s'y attendait pas vraiment. Cette US Open, il devait couronner Djokovic. Tout était prévu pour qu'il fasse le grand chelem. Quelque chose qui n'a pas été fait depuis 1969, donc quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Gagner les 4 tournois du grand chelem dans la même année, ça n'est pas fait depuis 1969. Et encore, à l'époque, c'était sur deux surfaces super différentes.
De quoi était revenu en plus dernièrement chez nos confrères, sur les pages de l'équipe, sur sa finale perdue.
Oui, ouais. Non, mais cette année même, on espérait qu'il fasse le grand chelem doré. Quelque chose qui n'a jamais été fait chez les hommes. Le grand chelem doré, c'est que tu rajoutes en plus la finale olympique. Donc là, jamais fait, seul Steffi Graf l'a fait chez les filles.
Ouais.
Et qui l'a bloqué sur ces deux grands tournois? Medvedev, comme je l'ai dit, à l'US Open. Ouais. Et Zverev au JO. Donc voilà, ces deux joueurs que je cite qui doivent prendre le pouvoir l'an prochain. Et je crois que c'est l'un des deux qui sera numéro un mondial l'an prochain. J'ai envie de mettre un petit billet.
Ouais, on verra
en
tout cas.
Je termine mon intro. Donc,
alors
là, parce que j'ai parlé des garçons, mais c'est pour parler des filles.
Et aussi.
Et cette US Open qui a été le théâtre de la plus grosse surprise de l'Air Open, quasiment du tennis féminin. Une gamine qui sort des qualifs à 18 ans et qui gagne un grand chelem sans perdre un set. Alors, pour certains, pour les pisse froids, pour ceux qui ont mauvais esprit, pour les cyniques, ils vont dire que c'est le niveau du tennis féminin qui est faible, qui permet qu'une joueuse qui sort de nulle part.
Certainement pas, quand même.
Emma Raducanu, pour ne pas la citer, qui est une jeune britannique très, très, très prometteuse. Enfin, c'est même plus prometteuse vu qu'elle a gagné un grand chelem, on n'en est plus là. Et bien, cette joueuse, je pense que non seulement elle va confirmer, mais elle va s'affirmer comme une des nouvelles patronnes du circuit. Et encore une fois, on est dans un renouvellement. On va tourner la page enfin de Serena Williams, cette page qu'on a tant de mal à tourner parce que c'est une tellement grande championne.
Elle a fait son temps.
Elle a fait malheureusement son temps et Dieu sait que c'est quelqu'un que j'admire.
Ça va, d'accord.
Mais voilà, on a deux nouvelles générations qui s'ouvrent. Et cette US Open aura marqué une rupture comme souvent, parce que c'est un grand chelem très particulier.
Voilà. Ouais. Eh ouais, justement, il nous a donné envie dans cette introduction, Louis-Marie, de nous faire aimer
le tennis. Louis-Marie a très bien amené la chose.
Allez, Abdel, il va continuer, Abdel.
Il est calé sur le sujet. Nous, si on a un œil avec un peu plus de recul, c'est un peu, on va dire, un signe que Djokovic, quand même, après quoi qu'on en pense du personnage, c'est quelqu'un qui a beaucoup été, entre guillemets, décrié aussi sur, en général et sur cette année-là. Le fait qu'il ne remporte pas l'US Open et qu'il ne fasse pas, comme tu as dit, les grands chelems dorés avec la finale olympique plus ce titre-là, ça montre aussi que potentiellement, quelqu'un qui est fort mentalement comme lui, peut-être puisse buter face à la nouvelle génération qui est beaucoup plus fraîche et qui amène un nouveau style sur le circuit. C'est vrai que Zverev et Medvedev sont de nouveaux athlètes qui font quand même assez la différence et mine de rien ça apporte un peu de fraîcheur. Après, concernant le côté féminin, c'est vrai qu'on s'y intéresse moins parce que il y a beaucoup de on a été beaucoup sur une ère consécutive avec les Williams, mais une jeune fille comme tu as dit de 18 ans qui arrive parce qu'elle est encore en pleine croissance, le fait d'aligner tout le monde sans perdre un set, tu peux te dire que soit c'est un coup de chance, soit tu reconnais le travail, parce qu'on sait que le tennis c'est quand même un sport qui est très difficile et qui est, pour arriver au niveau il faut faire des sacrifices, et que tu te dises qu'elle remporte son premier grand chelem à cet âge là c'est quand même une grande chose et une grande force pour la suite, et normalement elle devrait côtoyer les sommets par la suite.
Abdel.
Plus que le travail, c'est l'insouciance dans le cas de Raducanu, parce que elle a vécu un rêve. Elle sort de nulle part, elle sort des qualifications. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les qualifications, c'est elle n'était même pas qualifiée directement pour le Grand Chelem. C'est elle était au-delà de la 120e place mondiale. Donc il n'y avait aucune chance, il y a pas un bookmaker qui l'a donné gagnante. Donc elle a surfé sur une insouciance. Et ce qui va être dur, ça va être de confirmer. Moi, je suis d'accord avec Abdel, quand on a autant été forte, c'est difficile de croire qu'elle ne confirme pas. Mais j'aime bien rebondir sur cet aspect mental dont tu parlais pour Djoko. Ouais. On a enfin vu l'homme derrière la machine.
Ouais, c'est ça.
Et cette finale, je ne sais pas si vous vous rappelez l'émotion qu'a eu Djokovic. On a un Djokovic qui a pleuré entre les jeux. C'est quand même le plus grand athlète mentalement de l'histoire de ce sport. Je pèse mes mots.
Bien sûr.
Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes mentalement supérieur à lui dans l'histoire de l'ensemble des sports. Donc pour moi, c'est une référence ultime mentalement, c'est une machine de guerre. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus admirable quelque part que même Federer et Nadal, dans le sens qu'il a dû se construire par rapport à eux. Il y avait des stars immenses, il a réussi à se faire une place peut-être même au-dessus d'eux, malgré eux, alors qu'il avait moins de qualité. Et malgré tout ça, face à l'exploit le plus incommensurable qui lui était donné de réaliser, il a cédé. Il a cédé mentalement. Il s'est livré émotionnellement. On l'a vu détruit sur le terrain. Et quelque part, ce qui était beau, c'est que c'est à ce moment-là que le public l'a porté, alors que c'est le mal-aimé du tennis, c'est un petit peu comme le disait Babel.
Parce que ça l'a justement rendu beaucoup plus humain.
Bien sûr.
Par rapport à tout ce qu'il faisait, il y a quelque chose qui a été marquant, notamment cette année avec Djokovic, enfin dans l'année qui s'est écoulée, c'est le fait que souvent il perdait les deux premiers sets, il rentrait un peu au vestiaire, et on avait l'impression qu'il revenait métamorphosé, etc. Et le fait que, en fait, pour moi, c'est pas anodin, parce que l'aspect mental rentre en compte, mais que au moment où que tu boucles la boucle entre guillemets, eh ben, t'y arrives plus. Je pense que émotionnellement, il y a eu un trop plein, qu'à un moment donné, le cerveau, les jambes, elles arrivent plus à assimiler ce que tu fais au très haut niveau depuis des années. Moi, j'ai du recul par rapport à ce sport parce que je suis pas un connaisseur en profondeur, mais honnêtement. Quand tu vois de loin, tu te dis que ça reste un sportif, ça reste un humain, mais on aurait aimé qu'il puisse, comme on le dit, face à deux adversaires qui ont toujours été plus ou moins aimés et portés et mis en avant par le public, réaliser l'exploit qui n'a jamais été réalisé, comme tu l'as cité.
Mais après, c'est ça qui est intéressant. Quelque part, s'il l'avait réalisé, ce grand chelem, ou même ce grand chelem doré, est-ce que ça n'aurait pas minimisé presque les exploits que font ces athlètes, ces trois super champions depuis 20 ans? Quelque part, là, en une heure, on s'est rendu compte à quel point c'était difficile. On s'est rendu compte de comment on pouvait craquer mentalement, même en étant une superstar, une machine de guerre comme il est, ultra préparé. Et finalement, ça nous a rappelé ce qui s'est passé en 2015 sur le même US Open. Quand je dis que c'est que ce grand chelem qui est le dernier de l'année, il a forcément une signification particulière. Serena Williams, c'était en course pour faire exactement la même chose, à savoir le grand chelem. Bon, pas doré parce que c'était pas une année olympique. Elle est pareille, arrivée en demi-finale, elle s'est écroulée contre une adversaire qu'elle bat tous les jours une main dans le dos. Et ce jour-là, elle a complètement craqué alors qu'elle était ultra favorite. Et en fait, on a tendance avec ces ultra champions, comme on a tendance dans le football avec Messi ou Ronaldo, à banaliser les performances de ces athlètes hors du commun. Ils nous enchaînent tellement des choses exceptionnelles, match après match, après match, après match. Ils ne nous livrent que de l'extraordinaire.
Ouais.
Et on ne se rend plus compte que c'est extraordinaire.
C'est vrai.
Il faut de temps en temps une petite
piqûre
de rappel.
On est bien d'accord avec cela.
Et là, je trouve que c'était une magnifique piqûre de rappel.
On va terminer rapidement. Allez, la première pause de cette dernière.
Tu faisais le comparatif avec le football. Dans ce genre d'affrontement où c'est du 1 contre 1, avec notamment la finale que tu as citée. C'est là qu'on peut voir, entre guillemets, une passe d'armes, contrairement par exemple au football. Je dis bien une passe d'armes entre
un guillemets. Rapport de force.
Voilà,
un vrai rapport de force. Des vases communicants. Quand l'un monte, l'autre descend.
Oui,
tu peux te reposer sur
mais surtout qu'il y a quelqu'un qui monte en puissance, qui est sur ses pleins pouvoirs, alors qu'il y en a un qui est un peu, on va dire, sur la pente descendante. Et c'est là que tu peux voir vraiment sur le, comme tu dis, le rapport de force et le duel. Quelqu'un qui va prendre la main et quelqu'un qui est un peu sur le déclin.
Merci, Abdel.
Chose qui n'est pas faite forcément dans d'autres sports.
Juste un petit mot, un dernier, très rapide. Ce qui va être intéressant, c'est cet Open d'Australie, de voir comment il va se relancer.
On verra bien, début d'année 2022. C'est la dernière de Timesport pour cette année 2021. Restez avec nous, on revient de suite après la pause.
Timesport revient dans un instant. 20h, 21h, Timesport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour avec toute l'équipe de Timesport dans la joie et la bonne humeur. Et oui, la dernière de cette fameuse année 2021. Que vous soyez en voiture ou même entre amis, avec la famille ou dans les transports, eh ben, on pense à vous. Voilà. L'équipe de Beurre FM ainsi que sa rédaction et la direction. Voilà. La radio de la diversité pour cette dernière de Timesport 2021. On a parlé, de tennis. On va s'attarder aussi sur les Jeux Olympiques avec Sarah, sans oublier Louis-Marie et Abdel.
Timesport. La troisième mi-temps.
Et justement, je me retourne vers toi, Abdel. Alors?
Ben, moi, je souhaiterais parler des Jeux Olympiques qui se sont déroulés
JO.
Cet été. C'est vrai qu'ils ont été décalés, qu'on a mis beaucoup de temps aussi à pouvoir apprécier. Je pense, de mon côté, honnêtement, les Jeux Olympiques, ça n'était pas la même saveur que si ça avait eu lieu en 2020. Ce qui a été important l'important à retenir, c'est plein de médailles, notamment dans les sports collectifs. Comme on le disait avec Louis-Marie, on a été médaillé d'or chez les handballeuses féminines et chez masculin, et on a eu la médaille d'or au volley avec un Ngapet qui a été quand même énorme,
que nous avons reçu dans cette émission.
Et il y a eu aussi un fait marquant lors de ces JO. Ça a été la médaille d'argent qu'ont eu les basketteurs français. Et une image qu'il y a eu en demi-finale, c'est le contre de Batum à la dernière seconde contre la Slovénie, qui permet de nous envoyer en finale face aux États-Unis. Et ce contre, il a plein de sens. Pourquoi ? Parce que on avait battu les États-Unis en poule, donc on se disait que potentiellement on avait une étoile, une auréole au-dessus de la tête. Malheureusement, ça s'est passé différemment et pas comme on le souhaitait. Pour rappeler, voilà, ça a été un début de match un peu compliqué, mais ça a été une saveur particulière parce que voilà, Tokyo, avec le décalage horaire, les horaires l'heure à laquelle étaient les différents matchs, on a dû suivre ça de nuit quand on est un passionné de sport en règle générale. C'est des émotions qui sont quand même différentes à vivre parce que c'est aussi quand même tous les 4 ans comme plein de compétitions. Mais là, il y a tout le pays et toutes les compétitions qui sont engagées. Et finalement, voilà, c'est ce que je retiens moi personnellement de cet événement sportif, enfin en rétrospective de l'année 2021.
Alors Sarah, Louis-Marie.
Ce qui était génial avec ce compte de Batum, parce que ce que dit très bien Abdel, c'est que ces JO, ils étaient un petit peu en clair-obscur. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil quand c'est à l'autre bout du monde. Il y a des finales qu'on voit, des finales qu'on voit pas. Et finalement, moi, quasiment ma dernière image de basket de ces JO, c'est ce contre. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'après-midi. Il était à 13-14 heures, donc tout le monde était devant sa télé. Alors que la finale, elle a commencé à 4 heures du matin. Donc, effectivement, moi, je vous cache pas que j'étais en mer à ce moment-là, j'étais en bateau, donc ouais, c'était compliqué de la voir.
Jack Sparrow.
C'est voilà. Jack Sparrow, j'étais en train de me balader, bref. Mais la réalité, c'est que cette finale, je la voyais sur mon portable entre 4h et 5h du matin avec une 3G vacillante, donc j'en garde pas une saveur inoubliable, même si on était pas loin. Mais ce contre, il sort de nulle part, il est absolument incroyable. C'est pour moi la plus belle image de basket, c'est la plus marquante que j'ai vue avec l'équipe de France ces 20 dernières années. Et je rejoins tout à fait Abdel, moi j'étais comme un fou sur mon canapé. Quand on voit Luka Doncic, parce qu'il faut voir qui avait en face, parce que la Slovénie, pour les non-connaisseurs, ça fait peur à personne. Sauf qu'il y a Luka Doncic en face. Luka Doncic, c'est un monstre absolu. C'est un monstre, c'est un génie, c'est le Mozart du basket. Le mec a 17 ans, il gagne l'Euroleague, il est MVP de l'Euroleague. À 19 ans, il est en NBA, il est déjà... il était quoi ? Il était rookie de l'année l'an dernier et dans le classement du MVP, donc c'est une superstar. Et on avait mal géré notre fin de match alors qu'on avait de l'avance. Et on a un point d'avance, il reste 5 d'avance et il reste 15 secondes. Et Doncic a la balle dans la main. Et là, on a tous les boules. On a tous peur. On se dit, mais va nous sortir un truc. Et là, tu sais pas comment défendre. Et là, les Français ont fait ce qu'il fallait, qu'ils savent de mieux le faire parce que la France, elle se construit sur la défense. Ils ont tous joué le coup à merveille, c'est-à-dire, ils ont bloqué Doncic sur sa main gauche pour pas qu'il aille tout seul et qu'il soit obligé de passer sa balle. Et c'est ce qu'il fait, il passe la balle à Prepelic. Et là, on se dit, bah, Prepelic, il est plus rapide que Batum, parce que du coup, dans l'histoire. Voilà, dans l'histoire, Batum, il se retrouve à défendre sur un plus petit.
On remet dans l'ambiance.
Donc, il sait qu'il peut pas le prendre. Il sait qu'il peut pas le prendre en vitesse, qu'il va se faire avoir. Donc, il le laisse quasi passer en se disant, ok, vas-y, gamin, va au lay-up, mais je vais te contrer. Et depuis le début de l'action, il sait qu'il va le contrer. Il arrive par derrière, il déploie ses bras énormes, parce que Batum, c'est gadget au bras. Il a des bras immenses, il est gigantesque, il fait 2m6. Il a des bras démesurés. Incroyable. Et l'autre en face, c'est un petit Slovène d'1m95. Il n'avait aucune chance. Et il lance son lay-up. Tu dis, c'est bon, on est éliminé. Et là, il nous l'enlève. Et c'est absolument génial. Cette image, elle est incroyable.
Ah,
et
la lucidité derrière pour nombre Gobert, de personnes.
Qui est notre meilleur joueur. Il récupère la balle. Mais surtout, ce qu'il fait, Gobert,
alors
ça, la petite technique, c'est que surtout, il ne la garde pas, la balle. Il la balance. Pourquoi ? Parce qu'il reste une seconde à jouer. Et s'il garde la balle, il y a faute sur lui. Il se retrouve au lancer franc. Et potentiellement, il les rate, parce qu'il n'est pas bon au lancer franc. Et derrière, il y a une nouvelle balle d'une seconde. Et il peut tout se passer au basket en une seconde. Et là, il la balance devant n'importe comment. Et on voit la balle qui rebondit, qui sort du parquet. Et le match est terminé. C'est gigantesque. Et ça, pour le coup, c'est représentatif. Finalement, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné la médaille d'or, mais elle est extraordinaire, cette médaille d'argent. Parce que finalement, contre les Américains, une médaille d'argent, c'est presque une médaille d'or. Et ça représente l'ensemble des sports co-français qui a été magique. Il faut se le dire. On a toujours tendance à tomber sur les sports co qui sont pas toujours brillants au jeu. Là, on a le meilleur bilan quasiment de l'histoire des jeux en sport collectif pour une nation sur la même Olympiade. Il n'y a que l'URSS qui a fait mieux en 1980, c'est-à-dire une édition privée par le boycott de nombreuses nations. Donc c'est absolument gigantesque. On rappelle le bilan parce qu'on a parlé, le handball qui fait les deux ors, le volley qui gagne pour sa première participation depuis des lustres et qui gagne de manière incroyable en remontant 2-7-0 en demi, puis en se refaisant monter 2-7-0 en finale avec des émotions exceptionnelles. On a parlé du basket 3-3 fait une finale, les basketteuses aussi, parce qu'elles sont aussi sur le podium, les basketteuses féminines. Il n'y a que le foot qui a fait n'importe quoi. Et là, on peut parler du foot deux secondes.
On va revenir sur le foot avec la Coupe d'Afrique des Nations.
Ah bah oui, parce qu'on avait l'équipe pour gagner, sur le papier. Si on avait envoyé une vraie équipe. Parce que là, je peux laisser Sarah en parler, qui connaît bien le sujet. Sur l'équipe olympique, on avait une équipe des moins de 23 qui pouvait tout à fait gagner. Et on a envoyé les remplaçants et remplaçants. Honnêtement, je me flatte de connaître un petit peu le sport. Quand il y a des joueurs que je ne connais pas, c'est quand même un peu mauvais signe.
Ouais, peut-être avec Sarah.
Pour revenir sur ce que disaient Abdel et Louis-Marie, c'est le bilan est génial, exceptionnel pour nos tricolores dans le sport collectif. Après, oui, j'allais justement noircir le tableau en parlant malheureusement de notre équipe de foot.
Et alors ?
Une élimination un petit peu piteuse, j'ai envie de dire, malgré effectivement si sur le papier...
Non, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas d'équipe. Il y avait que Gignac et Savanier qui étaient au niveau. Je suis un peu dur, mais
potentiellement, même pour te dire, au niveau des U23 ou même des joueurs qui ont été appelés de plus de 23 ans, il y avait des joueurs qui auraient pu être appelés.
Bien sûr, j'ai pensé
à des joueurs. On parlait de Saint-Maximin hier qu'à Newcastle, mais il a jamais connu de sélection en équipe de France. Rien ne l'empêche d'être sélectionné. Il y avait d'autres joueurs d'expérience à voir, mais malheureusement, on va dire que ça n'a jamais été un fort le football aux Jeux Olympiques pour la France. Depuis longtemps, ils n'y ont pas été. j'ose espérer qu'en 2024, quand ça va être chez nous, ils vont envoyer l'armada.
Justement, je pense que les déclarations d'Mbappé par rapport à sa participation.
De toute façon, lui, il veut tout jouer. Alors.
Jeux Olympiques. Mais oui, mais c'est très bien pour nous, finalement.
Oui, pour 2024.
Ça fera plus de compétitions. Et voilà, mais je pense que ça peut donner une belle image à ces Jeux Olympiques qui sont un petit peu, je dirais...
Ah bah en football, c'est sûr. Ouais.
Voilà, c'est pas...
T'as pas envie de regarder le foot en général, ouais, quand tu regardes le jeu. Moi, j'avoue, c'est pas du c'est pas du tout affilié aux Jeux Olympiques.
Tout à fait, mais si t'as un sportif comme Mbappé qui participe, je pense que ça peut... Et j'en
bien
suis
sûr,
même
oui,
convaincu,
ça donne envie,
va donner
bien
une
sûr.
Autre image. Et ça va...
Parce que ce sont des sportifs de dimension internationale.
Ouais.
Et il est vrai que quand tu regardes l'équipe d'Espagne, l'équipe que l'Espagne a alignée au JO. Et Dieu sait que j'aime pas les Espagnols et que ça me fait du mal de dire du bien d'eux.
Il y en a plein qui étaient à l'Euro déjà.
Mais il faut
déjà
reconnaître, ouais, que eux ils ont joué le jeu. Et quand on nous explique que les clubs français ont pas voulu lâcher leurs joueurs, parce qu'on peut vous donner la liste, hein, la litanie de joueurs qui ont pas été libérés par leurs clubs, de joueurs extraordinaires.
Pas mal.
Et ben c'est une honte que les mecs ne jouent pas le jeu.
Ouais.
Je suis désolé. Il manquait tous nos joueurs de moins de 23 et Dieu sait qu'il y en avait.
Mais
parce que... Et donc en 2024, on va être Mbappé. Bah il avait l'âge pour là en 2024, il faudra qu'il prenne les trois places supplémentaires.
Mais ça restait une chance quand même d'envoyer des joueurs qui vont peut-être pas jamais connaître la sélection A, et au final tu prives des mecs qui potentiellement auraient voulu jouer. Et quand on sait que, comme je le dis, en 2024 c'est chez toi à domicile, tu vas envoyer l'armada, et il y a plein de joueurs là qui sont en train de prendre de l'ampleur, qui vont avoir leur place. Quand tu regardes l'équipe espoir plus ce qu'on a déjà aussi en équipe de France A, il y a pas mal de potentiel. Je pense qu'on enlève une chance à des joueurs et un potentiellement un rêve de jouer des JO, quelque chose qui se fait rare en fait.
Non, mais en enlevant un rêve, on a surtout enlevé un rêve à ceux qui avaient qualifié cette équipe. Parce qu'on oublie ça. Les joueurs qui ont été retenus contre leur gré par leur équipe, par leur club, c'est des joueurs qui ont qualifié leur équipe pour les Jeux. L'équipe de France, elle n'était pas allée au jeu depuis 96, quelque chose comme ça. Enfin, ça faisait bien longtemps, je me trompe peut-être dans les dates, mais c'est comme
aussi,
ça.
Hein.
Il y a un moment, il y a des mecs qui se qualifient, on les prive des Jeux, je trouve ça absolument honteux et immoral de la part des clubs. Et ça, en 2024, comme il y aura des appuis politiques et qu'il y aura évidemment une pression qui sera tout à fait autre, ils joueront le jeu, mais ils n'auront pas le choix. Et cette année, ça, c'était
on
bien
termine
triste.
À la Abdel, rapidement.
Non, pour compléter ce que dit Louis-Marie, c'est vrai que, comme on le sait, les JO, ils ont été décalés d'une année, et que les joueurs qui étaient potentiellement sélectionnables pour 2020 l'étaient aussi pour 2021, pour pas qu'ils soient privés de ce rêve-là et de la compétition dans laquelle ils sont qualifiés, dans laquelle ils ont passé pas mal de temps pour,
la FIFA avait été
pour les envoyer. Et finalement, pour une fois que la FIFA fait quelque chose de plutôt intéressant, eh ben voilà, nous,
c'est pas joué le jeu.
Voilà, en France, ça n'a pas été.
Et on a laissé Gignac exemplaire tout seul.
Avec Régis Savanier.
Merci. Vous restez avec nous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient avec la dernière partie de cette dernière émission de l'année 2021. On parlera aussi de cet événement africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Eh oui, 2022, qui se déroulera au Cameroun à partir du 9 janvier. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour pour la dernière partie de cette dernière émission de l'année 2021, toujours en compagnie de notre consultante Sarah, sans oublier Louis-Marie et Abdel. Allez, place au dernier sujet avec la Coupe d'Afrique des Nations.
Time Sport, le mode pressing.
Et justement, qui sont les fameux favoris pour ce sacre? Eh oui, le titre de champion d'Afrique après l'Algérie, peut-être. L'Algérie succédera
à l'Algérie.
Voilà, quoi, elle-même. C'est ça.
Hein, solide.
Pourquoi pas?
J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'objectivité.
Alors, on verra pour cette dernière.
On va être objectif.
Pourquoi pas?
Factuel.
Le Maroc, la Tunisie.
Ouais, oui, forcément, je vais pas être très originale en disant que l'Algérie fait partie des favoris, des grands favoris. Je vais faire preuve d'objectivité. Hein.
Alors,
je pense qu'il y a, donc ils l'ont montré à la CAN précédente, il y a l'effectif pour. Ils l'ont aussi montré à la Coupe arabe, exactement. Et puis au-delà de ça, il y a un coach qui fait des choses absolument extraordinaires avec l'équipe, qui l'a complètement, remodelé, j'ai envie de dire, et donc pour apporter un nouvel élan et rediscipliné surtout, et c'est vraiment ce qui manquait. Je pense que objectivement parlant, je vais pas être nationaliste ou quoi, je pense sincèrement que l'Algérie a ses chances. Après, un petit peu compliqué dans le sens où réitérer deux fois consécutives J'ai la performance, ouais, bon, on verra, hein. Sachant qu'à côté, il y a quand même des gros, le Sénégal qui va avoir un peu cet esprit revanchard de 2019. Et pareil, des individualités qui font que ça peut aller très, 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 très loin. Collectivement parlant, j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est moins fort, mais bon.
Ouais.
Le Cameroun qui a domicile.
Camerounais aussi.
Ouais. Ils sont quand même, ils ont combien de Cannes, le Cameroun? Beaucoup, il me semble. Ouais, voilà.
Peut-être une quatrième, je dirais.
Donc, non, ouais, je pense que. Alors, c'est peut-être. Sur le papier, je pense que t'as quand même d'autres équipes qui font.
Le Cameroun, ils ont un creux quand même, non?
Oui, mais tu vois, c'est à domicile. Ouais, mais non, mais je pense que.
Ils ont gagné l'avant-dernière Cannes, même si on les attendait pas.
Ouais, exactement.
Ils ont gagné au Gabon. Mais après, pour ce que Sarah dit, c'est vrai que l'Algérie, ils sont beaucoup mis en avant. Donc, potentiellement, c'est vrai que pour moi, c'est le fait qu'en Afrique, c'est très compliqué de rééditer deux fois les mêmes performances, même si l'effectif de Belmadi a progressé. Oui, mais l'Égypte, c'est autre chose. L'Égypte, ils se baladaient avec un club en sélection. Ils avaient,
c'est plus facile
pour eux de rééditer les performances. Après, l'Algérie, voilà, je pense que ils ont le potentiel pour, mais que à force de parler d'eux, on va les attendre. Donc, tu prépares beaucoup mieux tes matchs. Après, quand on voit la liste du Sénégal, c'est vrai que ça tape à l'œil. Il y a quand même pas mal de potentiel. Ils ont pratiquement par ligne toujours des top 3 ou des top 5. On peut parler de Koulibaly, de Sadio Mané, voire Édouard Mendy. Après, pour moi, ça va être une CAN avec des surprises, avec des équipes qui n'étaient pas forcément brillantes sur le continent, mais des équipes comme le Ghana, des équipes comme le Nigeria, qui répondent toujours présentes. Sarah, elle parlait du Mali, et pour faire le parallèle avec l'équipe d'Algérie dont on parlait au début, c'est une équipe qui a réussi à mettre justement les champions d'Afrique en difficulté parce que ils ont réussi à construire un effectif solide avec des binationaux qui ont choisi volontairement leur pays d'origine. Moi, je salue Fousseni Diawara qui est l'adjoint de cette sélection, qui fait un très gros boulot. Et après, voilà, il y a, par exemple, c'est vrai que on peut en rigoler, mais le Maroc avec Ali Lodzi, ils n'ont pas perdu, les éliminatoires de la CAN ni ceux de la Coupe du Monde. Donc, ça apparaît solide, même si Ziyech n'est pas là pour raison extra-sportive. Donc, je pense que ça va être une CAN assez ouverte, avec aussi la première participation des Comores ou même du Cap-Vert qui n'est pas là depuis longtemps. Donc, honnêtement, voilà, ça va nous laisser place à une belle CAN qu'on pourra suivre, on le rappelle, tout au long du 9 janvier au 6 février sur notre antenne.
Ouais, alors, le marais.
Moi, de l'extérieur, parce que c'est vrai que je suis un peu moins impliqué que vous deux dans ce combat africain, je trouve que effectivement, elle est très alléchante parce que on a vraiment, alors par rapport aux dernières CAN que j'ai pu suivre ces 20 dernières années, je trouve que là, on a plein d'équipes, on a 4-5 équipes qui ont une vraie tête d'affiche, qui ont des vraies stars internationales qui sont installées et qui ont, je trouve, c'est un petit peu moins indiscipliné ou c'est un petit peu moins anarchique que ça l'a été il y a quelques années dans le foot africain, ne me tombez pas dessus, de l'extérieur, où on pouvait trouver que ça manquait de discipline, ça manquait de collectif, ça manquait de tactique. Là, on a l'impression que les équipes sont beaucoup plus prêtes.
Ça a progressé le football africain dans tous les cas.
Mais ça
n'a
pas progressé en termes de talent, parce qu'ils ont toujours eu des talents extraordinaires. Mais aujourd'hui, on sent que ça a progressé de manière institutionnelle, que derrière les équipes, il y a des fédérations qui se sont un petit peu structurées plus dans certains pays, que c'est un peu plus fort, que c'est un peu plus organisé. Alors, c'est pas partout pareil, je t'entends souffler, Abdel.
Non, parce que c'est, pour moi, c'est pas forcément, entre guillemets, les fédérations. Je pense qu'il y a des hommes qui ont été mis au sein de sélections qui ont été joueurs ou qui comprennent un peu les problématiques du pays dans lequel ils sont et qu'ils sont arrivés en sachant imposer leurs idées. Comme on en parlait mercredi, c'est vrai que les institutions africaines, souvent, se mettre à genoux devant l'Europe ou tout ce qui est la FIFA et tout. Donc, je pense que les hommes qui ont été par le passé des acteurs sur le terrain, qui le sont aujourd'hui sélectionneurs ou même coordinateurs, apportent un plus à ces équipes. Et il y a une progression qui est faite sur le niveau tactique, au niveau des infrastructures aussi. C'est vrai que c'est pas tout le temps des beaux terrains, etc. Mais on va dire que potentiellement, les équipes comme l'Algérie ou la Tunisie qui jouent au ballon, ça va être beaucoup plus alléchant de les voir sur des terrains où c'est beau plutôt que des champs de patates comme on peut voir quand on respecte pas du tout son propre pays ou les adversaires qu'on reçoit. On a pu voir les terrains au Cameroun, qui sont assez récents justement, et que ça peut laisser place à du beau jeu.
Mais tu parles de joueurs clés. Bah tiens, je t'en prie, vas-y.
Non, enfin, oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Alors. Enfin, je pense que même au-delà du fait de parler des institutions, etc., etc., je pense très honnêtement que les joueurs, de leur côté, ont aussi voulu mettre cette compétition sur le devant de la scène, qui est très peu respectée, malheureusement. Mais enfin voilà, on a des joueurs comme Mahrez, comme Mané, comme Salah, enfin bref, qui sont des cadres de leur équipe, qui voilà, enfin qui le disent même parfois publiquement. On a cette CAN, c'est une compétition au même titre que l'Euro, au même titre que.
Enfin voilà, et il faut. On est d'accord, l'Euro, mais la question c'est pourquoi aussi ces joueurs-là ont un peu de ma fenêtre, hein, pas changé leur discours, mais on les sent beaucoup plus à l'aise pour dire ça qu'il y a quelques années. Moi, je me souviens.
Bah parce que c'est quand même des joueurs, par exemple, tu vois.
La Coupe d'Afrique, elle a changé.
Oui, non, mais il y a quelques années.
Niveau aussi.
Surtout que, enfin, je vais prendre l'exemple de Mahrez.
Ouais, celui de la Copa América.
Très anodin, mais enfin voilà, c'est un joueur qui, quand même, dans un des plus, voire le plus grand championnat d'Europe, il a quand même, enfin, il est quand même à City. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui fait que.
Mais ça, on est d'accord.
Son ampleur.
Mais c'était déjà le cas avant. Enfin, ce que là, je voulais en venir, c'est que oui, on a toujours eu ces joueurs, non, pas spécialement Mahrez, mais. Ça a toujours été le cas, ces très grands joueurs. Quand je disais ces grands joueurs, je ne parlais pas de ceux actuels. Ils ont succédé à des joueurs qui, eux, on les sentait parfois un petit peu baisser les bras vis-à-vis des sélections. Oui. Pas, ils en voulaient, et puis ils se disaient « Non, mais c'est bon. Voilà, je me suis battu. Ouais. J'y arrive pas.
Oui, là, c'est les infrastructures ne suivent
pas. La police ne suit pas.
Tu n'as pas le sentiment d'être, entre guillemets, voilà. d'être accompagné. Quand tu viens, entre guillemets, te battre pour ton pays, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de binationaux, mais quand toi, au fond, au fond de ton cœur... T'as été clair directement et que t'as choisi le pays d'origine de tes parents. Tu te dis que derrière, il y a plein de personnes qui ont essayé peut-être de te dissuader ou quoi. Toi, t'as voulu faire ce choix-là et qu'au final, dans ton propre pays, que t'as essayé d'aider parce que t'es un joueur comme on les cite depuis tout à l'heure, de qualité, qui fait briller l'Afrique à travers les cinq grands championnats européens. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire de plus que essayer de ramener des résultats, jouer au ballon, répondre présent à chaque convocation.
Mais tu vois, je pense qu'il y a eu une prise de conscience au niveau des joueurs et ils se disent aussi peut-être que c'est une nouvelle génération et que cette nouvelle génération va pouvoir changer la donne.
Alors moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il y a eu une structuration institutionnelle qui se fait que ces joueurs-là, qui ont envie de s'investir, se sentent soutenus et du coup... ne baisse pas les bras comme ça a été le cas par le passé. J'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, bah, il n'y a plus de sujet en fait. Ils viennent en équipe nationale parce que c'est encadré, parce que c'est sérieux, parce qu'il y a des coachs qui ont un vrai projet, qui ne sont pas là par hasard. Je me souviens des coachs qui tournaient. Il y a eu cette mode en Afrique des coachs allemands. Il y avait des coachs allemands qui sortaient du chapeau de nulle part et qui
c'est
entraînaient
vrai,
des équipes.
Ouais.
On
le
les connaissait
Mali,
pas.
Le Mali a enchaîné des coachs européens.
Des coachs allemands qui sortaient nulle part. Là, il y a des vrais projets qui ont été mis en place. Ça vient. Grâce aux joueurs, mais aussi les joueurs sont une conséquence de ce qui a été fait derrière. Comme tu parles d'infrastructures qui sont plus conséquentes. Et du coup, je pense que c'est le football africain qui en sort grandi. Et comme je le disais au tout début de mon propos, c'était de dire que ça donne envie cette CAN parce que du coup, les stars sont là. Il y a une équipe qu'on n'a pas citée, enfin très peu, mais malgré tout, l'Égypte, qui est une équipe solide et qui a une tête d'affiche, ça là, il peut la gagner tout seul cette compétition quasiment.
Et qui sont sur un échec pour avoir été éliminés chez eux en 8e de finale il y a 2 ans. Mais. Par rapport à ce que tu dis sur les joueurs, je pense que finalement en Afrique il y a beaucoup de cycles dans le sens où ça va être l'Algérie là, ça va être le Mali après, ça va être le Sénégal et au final quand tu vois qu'il y a plus de compétitivité, t'as envie de te battre parce que tu sais que il y a les meilleurs joueurs africains que tu peux affronter alors qu'avant certains préféraient choisir les sélections européennes.
Ouais.
Et honnêtement, après il y a quelque chose dont on parle de la CAN
rapidement,
mais le fait d'avoir Samuel Eto'o qui est à la tête de la FECA Foot ou même Didier Drogba qui essaye de s'introniser dans la fédération ivoirienne, ouais. Ça montre que il y a des problématiques qui vont être soulevées et qui va avoir ça va être recentré sur les problématiques du football, donc ça peut être pas mal.
Allez, qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour l'année 2021-22? La 2021, on la termine
tout de suite.
Ce soir, voilà, avec Sarah. Alors Sarah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir?
La santé avant.
Ouais,
tout,
la santé.
Pense.
La crise sanitaire est toujours là, voilà, bien sûr. Faut le rappeler.
Ouais, on vit depuis quelques temps maintenant une période assez compliquée, et je pense que sans santé,
La santé pour tous les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, Louis-Marie.
Bah moi je vais être mon tennisman acharné, je vais souhaiter la renaissance
Et pourquoi pas
un tout petit peu du tennis français. On espère, qui a été très triste cette année.
Les internationaux de France du côté
et
de la Porte d'Auteuil.
Espérer que peut-être à Roland Garros, on ait l'éclosion d'un ou deux jeunes qui pourraient nous faire rêver à l'avenir.
Et Abdel, justement.
Le classique, la santé, surtout dans la période actuelle. Et surtout que la pandémie ne nous empêche pas de pouvoir voir du sport et d'avoir de belles émotions. Et on n'oublie pas de dire qu'on pourra suivre la CAN sur Beurre FM.
C'est ça. Il a bien teasé, oui. C'est
toujours.
Vrai. C'est vrai, toujours avec Abdel. Nouvel élan, justement, et nouvelle année. Que cette nouvelle année exauce tous vos rêves et vous apporte aussi le bonheur jour après jour. Il faut le rappeler du fond du cœur. On vous le souhaite, 365 jours de santé, de prospérité, de douceur, ainsi que de la paix. Il ne faut pas l'oublier, la paix. Beurre FM, ainsi que sa rédaction, la direction, est là et vous accompagnera tout au long de cette année 2022. Oui, Sarah.
Et toi, Bilal, qu'on peut te souhaiter ?
Moi, je pourrais souhaiter une belle année à toutes les mamans du monde, voilà, qui nous écouteront ce soir et même durant toute l'année. Les mamans, c'est important, voilà, les familles, même si vous êtes entre amis ou tout seul, Beurre FM pense à vous et toute l'équipe de Tam Sport. Bye bye, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, on se donne rendez-vous en 2022.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.